Écho bizarre. Peu à peu, le désir de s'en aller grandit en lui. D'une certaine manière, il avait toujours désiré s'en aller. Jusque-là, il avait seulement bougé. Le soir dans sa chambre, au milieu de ses dessins, il se voyait comme un homme placé devant un voile qu'il lui faut déchirer. Que Nathanael n'ait rien découvert à ce jeu ne signifiait pas qu'il en irait de même pour lui. Nathanael était mort et il ne s'y habituait pas très bien, mais lui était vivant et libre. Libre d'apprendre et de découvrir, de déchirer le voile. Il pressentait que, contrairement à l'opinion reçue, au-delà du voile rien n'était pareil. Il était impossible à la fin que le monde n'eût que ces deux dimensions qu'il lui avait toujours connues. Il fallait se porter ailleurs. 2, c'était un mauvais chiffre. Le général et lui, Marie-Antoinette et lui, son père et lui, Nathanael et son père, Paris et Bussise, Lacombe et Lenormand, elle était décevante, cette vie de couple éternelle. Sûrement il y en avait une autre. La guerre était un excellent prétexte, ou plutôt une bonne occasion. S'offrait à lui la possibilité de pénétrer par effraction, à la faveur du carnage, à l'endroit où certains fils se nouent, et de rentrer en lui-même. Oui, c'était une occasion exceptionnelle que ce bouleversement. Jamais la paix n'en présenterait de pareil. Cette guerre, Augustin était décidé à ne la voir qu'ainsi. Pour le reste, il ne l'aimait ni ne la comprenait. Elle était trop grande. Ses ressorts demeuraient cachés, inexplicables. Il prenait en pitié ces pauvres êtres qui l'affublaient de mots et de sentiments humains, comme une terrible déesse de bronze à laquelle on mettrait des haillons. Les haillons étaient bleus, de la couleur du ciel. La mort, même en quantité, ne le déroutait pas. Il en avait l'habitude. Celle-ci présentait simplement des formes plus atroces et c'était tout. D'autres morts, auxquelles il n'avait pas assisté, celle de Nathanael par exemple ou celle d'Alcossé, l'avaient plus durablement affecté parce qu'elles ne ressortissaient en rien à l'ordre des choses. C'était en quelque sorte des échappées. Décidément, il lui fallait partir, peu importait où. L'enfant lui aussi avait passé de longues heures, les soirs d'été, sur un balcon à regarder la rue. L'air était lourd, et la rue en bas presque invisible sous le feuillage épais des arbres. Les rares passants semblaient désœuvrés. La ville s'endormirait donc sous le soleil. Attendre ou partir, c'était cela la vie toute la vie. On cherchait un médecin pour l'armée serbe. Augustin se fit connaître. Les bureaux, surpris, tergiversèrent un peu. L'âge et la qualité du postulant les embarrassaient. Un général dont il avait naguère soigné l'enfant fit le nécessaire. Lacombe ayant montré des signes de défaillance, on fit venir pour diriger le service Zorn, qui était à Saint-Vincent-de-Paul. C'était un Alsacien méthodique et froid. Augustin partit sans rien dire, évitant les discours et l'émotion. Il n'était pas mécontent, son père le conduisit à la gare. Le train partait vers le sud et on n'y rencontrait pas de soldats sauf quelques permissionnaires. Ils déjeunèrent tous les deux, on aurait dit un jour de vacances. Ils avaient peine à trouver leurs mots. « Tu avais une belle réputation, c'est vrai, » dit Charles-Pierre. « Mais la réputation, c'est déjà la mort, le passé, tu fais bien. » « Dit-il seulement la vérité, » pensa Augustin, et un sentiment mêlé d'angoisse et d'affection l'étreignit. Lorsque le train s'ébranla dans la gare à peu près vide, il ébaucha un signe d'adieu pour le vieillard resté au bout du quai et qui le regardait partir avec une tendresse muette. Charles-Pierre, lui, ne fit aucun geste. Le train fila dans ce pays de l'arrière, désert et calme. On voyait des femmes dans les champs et des vieux dans les gares. À Menton, un douanier lui dit « Vous en avez une guerre, là-haut ?» Puis ce fut l'Italie, âpre et noire sous un soleil froid. Le voyage prenait des jours. Augustin dormit. Il rêva. Ce furent des jours de balancement monotone et d'arrêt dans de petits endroits inconnus, avec un café, une fontaine, deux ou trois femmes, et il se demandait comment on pouvait y vivre. Au fond, c'est comme Bussy. Il réalisait soudain qu'il pensait à Bussy et à ses alentours comme à la pauvre vie de ses campagnes traversées, comme à un théâtre d'ombre qu'on avait dû démonter après son départ. Tout cela était derrière. Seule Marie-Antoinette ne l'était pas. Il lui semblait qu'elle le protégeait de loin, avec cet air de tout connaître, de tout accepter joyeusement, qui n'était qu'à elle. Qu'il ouvrit son télémaque, qu'il descendit faire quelques pas sur un quai ou échangea quelques paroles avec ce douanier planté là dans un couloir, dernier vestige d'un monde disparu, elle le voyait, l'encourageait. C'était un précieux réconfort. Bien sûr, c'était par goût du possible qu'il était parti, ce goût si fort en lui qu'il avait fini, non par tuer ses sentiments pour elle, mais par ôter du prix à cette aventure. Mais son souvenir vivant, l'accompagnant dans ce voyage, triomphait de l'échec. C'était comme s'ils eussent été, brusquement, transportés ailleurs, libres de tout. Il savait bien qu'elle ne voyait pas les choses de la même manière. Ses exigences n'étaient pas les mêmes. Aussi longtemps qu'il était resté, Augustin lui avait suffi, comme le reste. Elle n'avait pourtant rien trouvé d'étonnant à ce qu'il parte. Elle y voyait une caractéristique de l'espèce, un trait dont il fallait s'accommoder. C'était la vie. Elle se devait d'accepter la vie. Le sens profond qu'elle en avait s'imposait à Augustin traversant les vallées du Frioul. « Tu as vaincu, » souriait-il. « Elle était là. Quelle chance il avait si Narsenaï l'avait enterrée, c'était pour n'avoir pas bénéficié d'une telle protection. Parfois en s'éloignant, il se laissait pourtant aller à penser différemment, à éprouver une sorte de révolte. Son père avait compris qu'il s'engagea, Marie-Antoinette aussi, tout le monde comprenait toujours, il aurait aimé enfin quelqu'un qui ne comprit pas et refusa. C'était peut-être aussi que sa vie donnait à tous l'impression d'une ligne droite. Une ligne droite, et il avait un sourire amé. Il faisait ce qu'il avait toujours voulu, mais personne, jamais, ne lui avait montré autre chose à vouloir. Il se demandait d'ailleurs s'il l'aurait supporté.